Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
La bouche, je vais être avec mes auditeurs aussi. Afin qu'on puisse bien comprendre l'humilité, Seigneur Dieu, et surtout, à la fin de ce message, qu'on puisse désirer avoir ce cœur humble, ce cœur que tu as démontré en t'incarnant parmi nous. Au nom de Jésus, amen. Alors, ce matin, je veux parler de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de bien fragile, que quand tu commences à prendre conscience, ça disparaît. Par exemple, on ne pourrait pas dire une personne humble, très humble, on ne pourrait pas dire « je suis la personne la plus humble du monde ». Parce que dès lors qu'elle dirait ça, elle deviendrait orgueilleuse. Alors, c'est une valeur qui est très... Mais c'est une belle valeur, c'est quelque chose qui est très recherché. Dans les sites de rencontres, c'est prouvé que ceux qui se démontrent plus humbles, qui se vendent pas la patate, ils ont tendance à s'accrocher plus vite avec... les gens ont tendance à leur donner plus d'informations sur qui ils sont et tout ça à ces gens-là. Bon. Ce n'est pas la meilleure place à aller pour se trouver un conjoint parce que sur Internet, on peut se présenter aussi sur notre meilleur jour. Tu sais. Puis l'affaire, c'est que si tu commences une relation avec quelqu'un que tu as trouvé sur Internet, bien, ça se pourrait que le fake puis la réalité ne soient pas la même affaire puis que ce soit une relation qui soit longue et pénible. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'humilité, de cette valeur intérieure qui, après l'obéissance, c'est probablement la chose la plus importante qu'il y avait dans la personne de Jésus. Puis, d'abord, c'est ce qui m'inspire de faire ce message-là, c'est que Dieu aurait pu arriver sur un cheval dans les cieux, puis il aurait pu être comme le roi, le conquérant. Mais Dieu, il vient visiter son peuple, puis il descend, puis il rentre dans un petit bébé. Puis, il va grandir comme un simple enfant d'une famille pauvre à Bethléem. Puis, je veux qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Je ne parlerai pas beaucoup de ce phénomène-là de Dieu qui s'est incarné parmi nous. Mais on va lire quand même le prophète Zacharie, qui n'est pas le père de Jean-Baptiste, que j'ai prêché il y a 2 semaines, mais c'est un prophète de l'Ancien Testament. On va aller à la prochaine étape. Je te l'ai envoyé, le PowerPoint, Julien. Je vais te le renvoyer sans problème. On dirait que ça n'a pas passé. On réessaie. Ouais, hein? J'essaie de l'envoyer. Il y a un petit trou qui tourne. Je vais le partager, le lien de bord. OK, là, il est rendu. Tu devrais l'avoir, Julien. En attendant, je vais le lire dans Zacharie 9, au verset 9, c'est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, et il est humble. » Donc, un des traits de ce roi-là qui devait venir à Jérusalem, c'était un roi qui était humble. Donc, le roi vient à toi et il est humble. Des études psychologiques ont aussi démontré qu'une personne qui est humble s'est associée beaucoup à sa rancune, à savoir si une personne garde rancune longtemps ou non, c'est facile pour elle de pardonner. Donc, c'est associé à sa rapidité à pardonner et c'est démontré que les couples durent plus longtemps à cause de l'humilité. Bon, l'humilité, c'est quand même une leçon qui est très difficile à apprendre puisqu'on ne l'apprend pas parmi les hommes. Mais on l'apprend à l'école de Jésus-Christ. C'était difficile de trouver un des disciples humbles durant le temps de la vie de Jésus. Jean a demandé à ce que le feu du ciel tombe sur des Samaritains. les disciples, ils essayaient toujours de savoir c'était lequel qui était le plus grand parmi eux. Nous autres, quand on a un examen, on s'en va tout de suite voir si on est meilleur par rapport aux autres, hein, à savoir la cote Z, puis à savoir, tu sais, je suis où par rapport à la moyenne, tu sais. On a souvent, on se compare les uns avec les autres. Puis c'est pas quelque chose qu'on apprend facilement au milieu de nous, puis on dirait que Jésus-Christ a manqué sa job avec les 12 disciples. Puis on va en parler tout au long de mon message, comment que c'est une leçon qui est dure à apprendre, de devenir humble. Et puis, c'est une des choses primordiales qu'on apprend à l'école de Jésus-Christ, c'est on apprend l'humilité. Jésus nous dit dans Matthieu 11, au verset 29, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus nous dit, nous invite, puis il dit, « Écoutez, venez à mon école, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. » Bon. C'est une valeur qui est rare, mais de le posséder, c'est un très grand cadeau. D'avoir un cœur qui est humble et doux. D'ailleurs, la Bible dit par Jacques puis par Pierre, dans Jacques 4:6 puis dans 1 Pierre 5:5, il dit « Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Hein? » Dieu donne ses bénédictions, il donne ses faveurs à ceux qui sont humbles, mais il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Et donc, pour pouvoir recevoir les bénédictions de la part de Dieu, pour recevoir ses faveurs, Dieu met une condition. Il dit qu'il faut que je me place dans une position pour recevoir. Hein? Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Alors, la bénédiction de Dieu, si on la comparait à une pluie qui coule sur une montagne, on pourrait dire que le dessus des montagnes sont souvent chauves. C'est pas l'endroit, surtout dans les pays où il y a de la récolte fruitière, c'est pas sur le top des montagnes qu'on va retrouver les fruits abondants. C'est où? Dans les vallées. Pourquoi? Bien, parce que la montagne, l'eau va tout de suite fuir vers les ruisseaux, puis va aller rejoindre les vallées, et donc les endroits les plus arrosés ne sont pas le dessus des montagnes, mais le creux des vallées. Et c'est la même chose, c'est le même principe dans nos vies, c'est que la bénédiction de Dieu, elle ne se retrouve pas dans ce qui est haut et ce qui est grand, elle se retrouve dans ce qui est souvent bas, qui ne paraît pas beaucoup, mais qui est humble. Hein, le dessus pourrait être les succès, la gloire, mais la vallée, c'est l'humilité. Et Dieu, c'est là qu'il nous rencontre. Et souvent, on va trouver des personnes qui sont fières, mais qui sont stériles et sans fruits concernant l'humilité. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de talent et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'intelligence puis beaucoup d'humilité. Parce qu'avec le succès, avec la richesse, avec la gloire, vient souvent le mépris. Vient souvent aussi le « ben regarde, moi je l'ai gagné, ma croûte. Moi j'ai gagné mon… tu sais, j'ai travaillé pour ce que je suis devenu. Puis regarde eux autres. Eux autres, ils n'ont pas travaillé autant que moi, fait qu'ils ne sont pas arrivés à la même place que moi. Tu sais. » Fait que souvent, parmi les hommes, cette comparaison tout le temps par rapport à la moyenne, par rapport au plus bas ou par rapport les uns aux autres. Et lorsque Jésus nous demande de venir à son école, et il ne nous dit pas « Venez apprendre de moi parce que je suis le penseur le plus avancé du monde, parce que j'ai fait les miracles que personne n'a fait, parce que j'ai montré ma puissance des milliers de façons », mais Jésus nous dit « Venez à mon école parce que je suis doux et humble de cœur, et si on reçoit ses instructions, ben c'est la promesse qu'on a de devenir. On a la promesse de devenir un peu comme lui, c'est-à-dire doux et humble de cœur. » Comme je disais tantôt, l'humilité, c'est une valeur fragile. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu ces crayons-là, c'est super. À ce stade, tu peux faire des documents au propre avec un crayon à l'encre effaçable. Mais au maire de Serres, écoutez bien ce qu'ils disent en bas. « Annoter, non recommandé pour signature, document officiel et examen, l'encre s'efface si exposée à des températures extrêmes, soit plus bas que 10, moins 10 degrés ou plus grand que 60 degrés C. » Ça veut dire qu'on s'est fait dire à l'examen dernièrement, « Faites pas les examens au crayon à encre effaçable. » Parce qu'il y a un élève qui avait fait ça, puis son examen s'est effacé parce que le professeur l'avait mis dans sa voiture à plus que moins 10 degrés. Tu sais. Eh bien, l'humilité, c'est un petit peu la même affaire. Comme l'encre qui disparaît au froid, l'humilité a disparu aussitôt que tu commences à être trop conscient de toi. Tu sais. Et donc, on veut quelqu'un qui se vante d'être humble et orgueilleux, dans le fond. Et C.S. Lewis a dit quelque chose d'intéressant concernant l'humilité. Il a dit, l'humilité n'est pas de penser plus bassement de vous ou moins de vous, c'est de penser moins à vous. Et la manière que Dieu vient nous montrer comment on est important pour lui, c'est qu'il vient humblement nous mettre en valeur. Et donc, l'humilité met les autres en valeur. Et l'humilité, c'est comme une valeur que tu ne peux pas faker. Tu ne peux pas faker ça, puis je vais vous le démontrer par quelques exemples. Par exemple, on peut faire semblant d'aimer, d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir, mais c'est difficile de copier l'humilité parce que sa contrefaçon est facile à détecter. On dit au Moyen-Orient qu'il est facile de détecter entre le blé et l'ivraie. Pourtant, vous voyez une tige avec des grains, ça ressemble, les deux ressemblent vraiment comme pareil, tu sais. Sauf qu'il y en a une que dès qu'elle commence à porter du fruit, elle se courbe vers le sol. Et plus elle porte du fruit, plus elle est courbée vers le sol, tandis que l'autre demeure raide et ferme. Donc, le blé se courbe, tandis que l'ivraie, qui est un poison aussi, qui n'est pas comestible, qui n'est pas bon pour les gens, eh bien, ça, il reste debout. Il porte du fruit, mais il reste debout. Alors, ici, il y a une belle image là-dessus. C'est qu'une personne en qui l'humilité et la douceur que Jésus a travaillé dans son cœur est, va agir et se prosterner devant celui qui lui donne des fruits, mais aussi va se pencher face aux autres. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser ses succès ou le fait qu'il a acquéri mieux, qu'il a fait meilleur pour s'élever puis rester là une tête dépassant toutes les autres. Mais il va se servir de qu'est-ce qu'il a, de qu'est-ce qu'il est, pour mettre les autres en valeur. Il va les servir. Et donc, il va aussi se courber. Il y avait un homme qui s'appelait D.L. Moody, qui a vécu au siècle dernier. C'était, on dit de lui, celui qui a été le plus grand évangéliste de la fin du 19e siècle. Il a personnellement conduit plus de 1 million de personnes à recevoir le don de la vie éternelle. Donc, comprendre l'Évangile, prier pour recevoir le Seigneur Jésus, puis avoir la vie éternelle. Plus de 1 million de personnes personnellement. On dit de lui qu'il était un des plus influents, assez qu'il a parti à une école dans le Massachusetts et les gens de partout dans le monde venaient écouter ce gars-là prêcher. Et une année, alors qu'il avait une conférence, il y a une délégation d'Européens qui sont venus, puis en Europe, il y a cette pratique de faire cirer les chaussures par le serviteur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le fond, toutes dans le dortoir là, où ce que les gens d'Europe étaient arrivés, ils ont tous sorti leurs suivis, ils ont mis dans le couloir. T'sais. Ils sont allés se recoucher. Mais ce n'était pas coutume aux États-Unis de faire ça comme ça l'était en Europe. Alors, D.L. Moody marchait dans les couloirs, priait pour ses invités, tout ça. Puis là, il voit toutes les paires de souliers dans le couloir, puis il fait comme, oups, là, on a oublié celle-là. Fait qu'il s'en va voir les étudiants, dont il est le professeur, dans son collège, puis il leur dit, écoutez, il y a un problème, on a oublié de cirer les chaussures, puis il n'y a pas un élève qui a levé le doigt, tu sais. Fait qu'il a pogné les chaussures, il les a amenés dans sa chambre, puis il les a cirés un après l'autre. Puis lui, il ne s'est jamais vanté de ça. Par contre, il y a une personne qui est venue le rejoindre pour l'aider à finir son travail. Et donc, cet homme-là, même s'il était un orateur international et qu'il avait la popularité des louanges de partout au travers le monde, il avait quand même gardé son humilité. Son humilité, c'était quoi? C'était de servir son prochain, peu importe quel degré de succès qu'il avait accompli. Et donc, ça nous montre bien notre Sauveur, n'est-ce pas? Ce Dieu-là qui a le droit d'être servi, qui a le droit d'être obéi, qui a le droit d'être, d'être adoré, qui vient. Puis Jésus va dire, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, puis me donner ma vie pour plusieurs. Et donc, s'il vient d'abord comme un enfant, il va venir un jour comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou doit fléchir. Mais en attendant, ce que Jésus a voulu nous montrer par son incarnation, c'est qu'il est... D'abord, quand il veut nous montrer que Dieu nous aime, il ne vient pas nous montrer un homme puissant. Il vient nous montrer quelqu'un de fragile, comme un enfant, quelqu'un qui est simple. Et donc, Matthieu 10, 45, Matthieu 20, 28 nous dit que Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir puis donner sa vie. Et cet homme-là, D.L. Moody, a su se plier. Et il a dit quelque chose d'intéressant à propos de l'humilité. Il a dit, nous pouvons être trop grands pour que Dieu nous utilise, mais jamais trop petits. Donc, il peut arriver dans un endroit dans notre vie où Dieu dit, je m'excuse, mais t'es trop fort. Je m'excuse, mais t'es trop bon. Je m'excuse, mais t'es trop puissant, je ne peux pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que t'es droite comme une barre. Tu portes du fruit, mais tu dépasses tout le monde d'une tête. Mais je ne vois pas dans ton cœur ce cœur-là de serviteur qui est là, que ton fruit sert pour les autres. Il te sert à toi pour t'élever parmi les hommes. Et donc, Dieu est comme incapable de faire quelque chose avec une personne qui ne se plie pas, une personne qui s'enorgueillit. Et donc, on peut être trop grand pour Dieu, c'est drôle, hein? Dans le monde, ce n'est pas ça qu'on apprend. Dans le monde, ce qu'on apprend, c'est que si tu es un des meilleurs, c'est toi qu'on va prendre. Si tu es un des plus performants, c'est toi qu'on va choisir par rapport à tous les autres. T'sais. Puis Dieu dit, je m'excuse, mais tu es trop fort, tu es trop capable, je ne peux pas t'utiliser. Et chacun de nous, on a ce désir-là que Dieu nous utilise et on a besoin d'apprendre que Dieu peut nous utiliser quand on est assez petit, quand on ne se voit pas trop grand à nos propres yeux. Donc, une personne en qui l'humilité et la douceur n'est pas, reste bien droite, un peu comme le livret, hein? Elle dépasse tout le monde d'une tête. Des gens avec beaucoup de potentiel sont souvent empêchés d'avoir un impact réel dans la vie des gens. Ah, c'est sûr qu'on admire ce qui est grand, on admire ce qui est beau. Je veux dire, c'est American Got Talent, tu sais, ça nous attire ces émissions-là. Tu sais, un petit bonhomme de 5 ans qui va te faire une performance, là, puis on est tous là, puis là, ça ovationne. Tu sais. On met toujours en avant le meilleur, celui qu'on n'est pas capable d'accoter. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel, mais ils sont empêchés d'être utilisés par Dieu. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce qu'ils doivent être souvent le centre d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils parlent, 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 c'est toujours à propos de ce qu'ils ont fait. « Oh, toi, c'est ça, mais moi, il n'y a rien là, moi. Hey, moi j'ai... » Puis là, c'est toujours en train, c'est toujours, ou « Regarde comment j'ai mal, regarde comment j'ai mal. » Ils sont toujours en train de ramener la discussion autour d'eux autres. Et donc, on ne réalise pas qu'on est là pour les autres. Et à Noël, c'est le temps, on s'en va dans nos familles, on est là en tant que chrétien, de manifester l'humilité, ça devrait être quelque chose qui soit recherché parmi ceux qui disent suivre l'enseignement de Jésus. Dépasser les autres, pourquoi? La Bible a dit dans le livre de Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Grosso modo, Dieu nous fournit l'air qu'on respire, nous donne l'énergie pour faire ce qu'on fait. Et donc, c'est pas juste que les étoiles s'enlignent bien, c'est que Dieu bénit aussi une personne. Et donc, on doit réaliser que, oui, on est le résultat de nos efforts, on est le résultat de, oui, on a travaillé fort, tout ça, mais on est aussi le récipient de la grâce et de la bonté de Dieu. Moi, personnellement, moi, c'est quand je pense à ce message-là que je le fais, moi, c'est mes notes, tu sais. À chaque fois que je reçois mes notes, je m'en vais sur le petit site orange ici, puis je m'en vais essayer de voir comment je suis comme par rapport aux autres. Tu sais. Je réalisais que c'est quand même c'est important pour moi. Là, je me suis posé la question, pourquoi c'est si important que ça? Bien, c'est que depuis que je suis petit bonhomme, justement, on me dit que si j'ai un A, je vais avoir une pièce. Tu sais. Puis si j'ai plusieurs A, je vais avoir plusieurs A. Fait que je pourrais me comparer à moi-même, mais ce qui est arrivé, c'est de, tranquillement, c'est de regarder si les autres ont eu A aussi. Dans ce système de performance-là. Et donc, c'est un système qui est enraciné. C'est pour ça qu'on ne l'apprend pas parmi les hommes, cette leçon-là de l'humilité. Parce que dans le monde ici, tu es ce que tu produis. Tu es bébé, tu n'as pas grand valeur. Tu t'en vas à l'école, on investit dans toi pour qu'éventuellement tu augmentes ta valeur. Tu t'en vas sur le marché du travail, puis là, si tu gagnes de l'argent, si tu as un certain salaire, si tu rapportes de quoi à la société, là, tu vaux quelque chose, puis là, tu arrives à la retraite, puis là, tu commences à réaliser, j'ai-tu été quelqu'un? Puis là, hop, si tu n'as pas développé des hobbies, tu commences à si tu as mis toute ton identité dans ton travail, tu commences à t'ennuyer à la retraite. Puis, donc, c'est un système que tu es ce que tu produis. C'est un monde, comme je disais, de compétition où le meilleur gagne. C'est pour ça que l'humilité, on ne l'apprend pas dans le monde, mais on l'apprend à l'école de Jésus-Christ. Donc, on a parlé beaucoup de l'annonciation que Jésus se faisait annoncer d'avance. Puis, je vais vous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est choisi par Dieu pour passer devant Christ puis annoncer que le Messie va venir. Lui, il a grandi dans le désert, il est resté dans le désert, il était habillé en peau d'animaux, mangeait des sauterelles puis du miel. Puis à un moment donné, quelques mois avant que Jésus fasse sa sortie, Jean-Baptiste va prêcher, puis il va dire « Le roi s'en vient, humiliez-vous, faites du ménage dans votre vie, un peu comme si un roi allait passer, on fait du ménage dans nos maisons, puis on arrange tout ça. » Il demandait au peuple de se préparer pour recevoir le Messie. Et il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui venaient l'écouter puis se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Et à un moment donné, il y a une délégation qui vient et on lui dit « T'es qui toi? » Et Jean-Baptiste va répondre, il ne dira pas « Je suis le fils du prêtre Zacharie ». Il n'a pas dit « Hey, vous n'avez pas entendu que je suis un prédicateur renommé ou que j'ai baptisé plus de monde que n'importe qui dans le monde? » Non. Qu'est-ce qu'il va répondre? On va lui dire « Jean, t'es qui? » Et Jean va répondre « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis une voix. Venez même pas pour me voir, venez pour entendre, j'ai un message. » Grosso modo, c'est comme s'il disait « C'est pas moi qui compte, c'est le message que j'apporte. » Et donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on doit voir, j'ai un message. Alors, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Jean 1, 23. Et dans Marc 1, il dit, il prêchait et disait, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Et je ne jugeais même pas digne de dénouer sa sandale. Et donc, il est fils d'un prêtre. Il y a un auditoire de milliers de personnes qui viennent l'écouter. Il y a une renommée en Israël, puis il ne parle pas de sa renommée. Il dit, écoute, je ne suis même pas digne. Il y en a un qui s'en vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Okay? Et alors, à un moment donné, Jésus commence à prêcher, puis Jésus commence à baptiser du monde. Puis là, la foule de Jésus grossit, puis il y a un switch qui se passe. Les gens ne viennent plus écouter Jean-Baptiste, ils vont écouter Jésus. Fait que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer comme ça. Fait que là, les disciples disent, Jésus, il baptise lui aussi. Puis il prêche aussi, tu sais. Et Jean-Baptiste va dire ceci, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend éprouve une grande joie à la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, c'est facile à dire, de dire, je suis prête à ce que moi, je vais prendre moins de place, je vais élever plus Dieu dans ma vie, Dieu va prendre plus de place dans ma vie, puis les autres aussi vont prendre plus de place dans ma vie. C'est facile d'être prêt à réduire, mais c'est difficile de vivre dans la pratique de ça. Jean-Baptiste, à chaque jour, il voyait sa popularité diminuer. Puis celle de Jésus augmenter. Et donc, il avait besoin de prendre la deuxième place, mais d'accepter de prendre cette deuxième place-là, puis d'accepter aussi de perdre l'attention. Une personne qui est humble, c'est une personne qui dit, « Sais-tu quoi? Je n'ai pas besoin d'être le centre des discussions. Je n'ai pas besoin d'être la personne la plus haute, mais je vais mettre les autres en valeur. » Et donc, ça voulait dire pour Jean-Baptiste de choisir l'impopularité. Hey, ce gars-là, Hérode venait l'écouter prêcher. Le délégué de Rome venait l'écouter prêcher, mais à un moment donné, il n'a pas aimé un de ses messages parce que Jean-Baptiste, soit il est allé le voir en privé, soit il a dit devant les autres, mais ce n'était pas correct qu'il soit marié avec sa sœur. Fait qu'il s'est fait emprisonner. puis il allait l'écouter parler. C'est écrit qu'il allait l'écouter parler, puis à un moment donné, ben, on connaît l'histoire, là, il s'est fait trancher la tête parce que sa belle-fille, ou la fille de sa femme en tout cas, elle n'aimait pas bien ça, Jean-Baptiste. Fait qu'il est vraiment réduit d'une tête, tu sais. Donc, voilà. Il y a eu un temps pour briller, Jean-Baptiste. Il y a eu un temps, ouais, venez voir le gars, venez voir qu'est-ce qu'il nous dit, tu sais. Puis il y a eu un temps pour ne plus briller. Comme l'étoile du matin, c'est l'étoile la plus brillante, souvent qui annonce la levée du soleil, mais dès que le soleil est là, je veux dire, tu n'avais plus l'étoile du matin, là. Bien, c'est un petit peu la même affaire. Un croyant, normalement, voudrait éventuellement que tout ne tourne pas autour de lui, tandis que les gens puissent connaître Dieu, que ce soit par moi ou que ce soit par un autre. Ce matin, que ce soit Jean-Sébastien qui parle ou que ce soit Jean-Baptiste qui parle, ce qui compte, c'est qu'on est une voix qui crie dans le désert. Et chacun d'entre nous, on est tous des voix que Dieu a placées par lesquelles Dieu veut dire au monde qu'il l'aime. Mais on est juste des voix. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment qu'on l'ait dit, c'est que les gens savent que Dieu les aime. Et pour ça, Dieu dit, ça me prend des gens qui sont humbles. Pas des gens qui pensent qu'ils sont le message, mais qu'ils ont le message. Et dans le fond, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est, à l'image de la naissance de Jésus, Dieu qui se fait petit, qui se fait homme, nous, dans notre vie, à nous, est-ce qu'on a été réduit? Si on pense là depuis un an, est-ce qu'on a pensé à nous et à notre position dans le monde beaucoup dans la dernière année? Est-ce qu'on cherche beaucoup à être aimé et reconnu par les autres? On est-tu accroché à des titres ou des positions? Est-ce qu'on est vexé si on ne nous traite pas comment on devrait nous traiter? Hein? Donc, Jean, il ne voulait pas un titre, il disait « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Quand on est en règle, on se fout un petit peu de l'honneur de ce que les gens pourraient nous donner parce que Dieu a fait des choses au travers de nous. Un exemple de ça, c'est Paul. Paul, au début, l'apôtre Paul qui a écrit, je pense, 19 des livres du Nouveau Testament sur 27, il dit au début de son ministère, s'il avait une comparaison à faire avec les autres, s'il se comparerait avec les autres, il dirait ceci. Il dirait, je suis le dernier, puis il se comparerait aux 12 apôtres. Je suis le dernier des apôtres. Puis là, plus que son ministère avançait, il disait, « Je suis le moindre de tous les saints. » Donc, parmi les apôtres, il y a d'autres personnes. C'est qui les autres? Ben, le prochain groupe, mettons, c'est les croyants. Les saints ici, en passant, ce n'est pas ceux qui sont des statues là, dans les églises là, qu'on a canonisées là, parce qu'ils ont vécu des vies saintes. Mais c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ et que leurs péchés ont été pardonnés. La Bible les appelle des saints. Fait que, si Paul avait à se comparer puis dire si ça va bien dans ma vie, si ça devrait bien aller dans ma vie, c'est pas parce que je suis le meilleur d'aucun des saints ou aucun des croyants. Il dit si on se comparait, ben, je serais le moindre de tous les saints. Il se voyait pas comme le plus haut parmi les apôtres. Il se voyait pas le plus haut parmi les chrétiens. Puis ensuite, à la fin, proche de sa mort, il a dit je suis le chef. I'm the chief sinner. Je suis le chef parmi les pécheurs. Je suis le chef des pécheurs. Je suis le roi du péché, si on pourrait dire. Paul, plus qu'avancé, avant, il se comparait à un petit groupe de gens, puis il dit, si c'était pour se comparer, je suis le moindre parmi les apôtres. Si encore faut-il se comparer à tous les croyants, je suis le moindre de tous les saints. Puis si encore, il faudrait se comparer puis dire si c'est une question de comparaison, si c'est une question que la bonté et tout ce qui me vient dans ma vie, ben, je suis le chef des pécheurs. Voyez-vous la graduation? Plus qu'il avançait, moins il avait foi en lui. Mais Paul disait, je suis qui je suis à cause de la grâce de Dieu. Puis là, il regarde toi, il regarde moi. Puis il dit, si toi tu es un pécheur, moi je suis le dernier des pécheurs, je suis le chef des pécheurs. Ni toi, ni moi, on peut recevoir la bénédiction de Dieu, mais on peut l'avoir seulement en se tournant vers Dieu puis en disant, c'est-tu quoi, je ne mérite pas ta grâce, je ne mérite pas ton amour, je ne mérite pas ta bénédiction, mais je m'humilie devant toi, Dieu, pour recevoir ta grâce. Et Paul, plus que sa vie avançait, plus qu'il était conscient de ses failles, il était conscient de ses faiblesses, il était conscient que si ça dépendrait de se comparer, il n'aurait pas l'affaire. Puis je pense que c'est un petit peu ça, plus qu'on vieillit, hein, plus qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas rien d'éclatant en nous, nécessairement. Mais que Dieu nous aime pareil. Et que Dieu nous donne sa grâce pareil. T'sais. Et donc, ce n'est pas une question de mériter par rapport à nos semblables, mais c'est que chacun d'entre nous, même le dernier des pécheurs que Paul disait être, avait le droit à la grâce de Dieu. Andrew Murray, qui a vécu aussi au siècle dernier, dit ceci. « Quand je regarde dans ma propre existence religieuse ou quand je fais le tour de l'Église de Christ dans le monde, je suis surpris à l'idée que l'humilité soit si peu recherchée comme la marque du disciple de Christ. Dans les prêches, dans la manière de vivre, dans les relations à la maison et la vie sociale, dans la communion chrétienne, dans la direction, dans le service chrétien, malheureusement, l'humilité n'est pas élevée au rang des vertus cardinales, la seule racine par laquelle la grâce peut croître, la condition indispensable de la vraie communion avec Jésus. » Ça, c'était à la fin du 19e. Il disait, je regarde dans ma vie, puis je regarde dans les églises au travers le monde, puis Andrew, il dit, les gens ne cherchent pas l'humilité. Les gens cherchent encore, comme dans le monde, celui qui est le plus drôle, celui qui est le plus le fun. Il va chercher ceux qui ont le plus d'impact. Mais il ne cherche pas l'humilité, personnellement. Et on a besoin vraiment de faire un voyage vers l'intérieur et dire, c'est-tu quoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre à Noël cette année? Que Dieu, pour montrer sa grandeur de son amour, s'est fait petit. Et que moi, dans ma famille, dans mon couple, à mon travail, dans mes relations d'amitié, je vais me faire petit. Petit parce que je vais mettre l'autre en valeur, je ne serai pas le centre d'attraction, je ne serai pas le centre autour de quoi tout gravite, mais je veux vivre pour l'autre. Et c'est le trait caractéristique, un des traits caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il va nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, c'est encore une fois se laisser attirer parce qu'il est petit et humble. La semaine passée, on a vu que Jésus est venu dans l'Évangile de Luc. Tu vois qu'il vient pour les marginaliser, ceux que la société a mis complètement de côté. Il est venu, puis il est venu pour ces gens-là en premier. Il est venu pour tout le monde, mais il n'a certainement pas oublié le pauvre et le méprisé. Tu sais. Mais ça, c'est des gens qui ne frappaient pas le regard. C'est des gens, quand tu décidais de faire un festin, ce n'est pas eux autres que tu as invités, admettons, pour te faire une renommée. Maintenant, Jésus-Christ... L'humilité de Jésus, c'est une de ses caractéristiques les plus marquantes. Quand que Paul dit par l'Épître aux Philippiens, il nous dit d'avoir quelque chose qui était en Jésus. Il nous dit d'avoir ce qui était en Jésus. Il dit dans Philippiens 2, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait sous forme de Dieu, ne pas regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Ici, le passage dit, tu veux, sois comme Christ. Le disciple, c'est, faites pas de rivalité entre vous autres. Comparez-vous pas les uns avec les autres, par vaine gloire, pour montrer que, hein, lui est pas bon, regarde, moi je suis meilleur. Dans un conflit, c'est souvent ça, hein, c'est de prouver que l'autre a tort. Non, traitez-les comme supérieurs à vous. En Asie, il y a cette idée qu'il faut que tu trouves ton rang. Tu sais, dans les pays de l'Est, oriental, il y a cette idée de « je suis où par rapport à lui? » Tu sais, fait que là, il y a des hiérarchies. Au Japon, ça va être très hiérarchique, par exemple. En Asie, mettons dans le coin de Vietnam, Thaïlande, tout ça, on va avoir cette idée que celui qui est plus vieux en âge doit avoir ton respect. Tu sais. Fait que tu regardes par rapport à qui tu es dans la hiérarchie. Puis là, tu sais, comme quand tu es un client là-bas, ils te traitent comme un dieu, littéralement, parce que tu les payes. Dès que tu les payes, tu es comme leur maître. T'sais. Fait que là, ils vont faire ça comme ça. Ils vont se pencher, puis ils vont donner quelque chose qui est extérieur, un respect qui est extérieur. Mais le chrétien, lui, c'est pas ça qu'il va faire. Lui, il va considérer comme tous les autres comme étant plus importants que lui. Il négligera pas ses propres intérêts, mais il ne va pas les faire passer avant les autres. Et c'est là qu'on va reconnaître. Et donc, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui dit, « Sais-tu quoi, mon Dieu, lui, a pas voulu, il n'a pas considéré ça juste comme un privilège que d'être supérieur aux hommes. Il s'est fait homme et il est devenu serviteur des hommes. » Alors, à combien de fortes raisons si Dieu, le Créateur, devenu un petit bébé, à combien plus forte raison, moi, je ne pourrais pas me faire un peu plus petit dans ces relations-là, dans ces interactions-là avec les autres. Donc, il montre son humilité par sa naissance. Il naît dans une famille pauvre. On voit ses parents à l'âge de 12 ans, mais après ça, on ne les voit plus. On voit Marie toujours, mais on ne voit plus Joseph. Fait que ça se pourrait qu'entre l'âge de 13 et 17 ans, Jésus soit devenu un des supports de la famille, de ses quatre frères et deux sœurs au moins. Donc, il était au moins sept enfants. Et donc, il est support probablement de famille, travaille la charpenterie qu'il a appris de son père. Regardez bien, il va rester en silence pendant 30 ans. Ça veut dire qu'il est Dieu fait homme. Il a le message, tu comprends-tu? Il a le message. Puis il ne va pas parler jusqu'à l'âge de 30 ans. Il va faire sa sortie en public quand Dieu va l'élever. Quand le Père va dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » À son baptême, il y a une colombe qui va descendre sur lui. Et puis là, ça va être le point de départ. Jésus attendait le signal pour être utilisé par le Père. Et à combien plus forte raison, on devrait nous autres aussi s'humilier et attendre que le Père nous élève. Et donc, il a été en silence pendant 30 ans. Il a attendu que le Père l'élève pour son ministère public. Et encore, quand que Dieu l'a élevé, ce n'est pas pour qu'il soit servi par nous autres, c'est pour qu'il serve plus de monde. Et quand on comprend que quand on a de l'influence sur les gens, quand on a plus de visibilité sur les gens, c'est pour aimer plus, c'est pour servir et avoir un plus grand impact sur eux, bien, je suis encore juste une voix qui crie dans le désert. Je dis, tasse-moi, mets-en un autre, c'est le message qui compte. Comprenez-vous? La personne, elle réalise qu'elle garde. Paul, à la fin de sa vie, il dit « Je suis le chef des pécheurs. » Pourtant, c'est un prédicateur, c'est un écrivain prolifique qui nous a permis de comprendre l'Évangile. T'sais. Donc, son ministère envers… Et une des choses que Jésus a dit quand il a été élevé puis qu'il a eu son baptême, il a dit « Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il est venu quoi? Il est venu vers ceux qui sont dans la vallée complètement. Il est venu vers ceux qui étaient écrasés par la vie. Et donc, il est allé vers les humbles et ceux qui ont été humiliés aussi. Et son défi, c'était tout un défi. Et si vous seriez un des 12, ça serait la même affaire. C'était de leur enseigner un brin d'humilité. Alors, les disciples. Pendant 3 ans, Jésus va prendre des disciples, il va les vivre avec eux jour et nuit, puis il va leur donner des leçons d'humilité. Hein? Et là, imaginez, on est au dernier repas avant la croix. Vous dites, hey, on n'est pas à Pâques, Jean-Sébastien, on est à Noël. Oui, c'est vrai. Mais l'humilité incarnée, okay, qui était venue pour mourir pour nous autres, marche. Puis là, il entend une discussion vive, puis là, ça joue du coude en arrière. Il n'entend pas ce qu'il se dit. Fait que là, rendu au repas, il dit, de quoi c'est que vous parliez là, quand on était en route? Bien, on est en train de se dire c'est qui est le plus grand, tu sais, entre les 12 disciples. Fait que là, ça joue du coude pour savoir c'est qui. Puis là, Jacques et Jean, je pense que c'est là, ou peut-être un autre repas, mais ils vont nous dire c'est un autre repas. Mais ils vont demander d'être assis à sa droite et à sa gauche quand Jésus va venir dans son royaume, tu sais. En tout cas, là, il y a cette idée qui est le plus grand. Puis Jésus, il ne va pas les réprimer, mais il va canaliser, il va dire hey, si vous voulez être les plus grands, soyez les serviteurs de tous. Et donc, il va leur donner une leçon. Et dans un repas comme ça, normalement, il y a un serviteur qui vient laver les pieds un peu comme les chaussures pour les Européens. Il y avait cette idée qu'on marchait dans la poussière, tout ça, puis qu'il fallait laver les pieds. Et donc, il n'y a pas personne qui s'est offert, hein, parce qu'ils veulent tout savoir c'est qui le plus grand. Fait que pendant qu'ils sont en train de se casser la relation parce qu'il essaie de voir c'est qui est le plus grand entre eux. Il n'y a personne qui se fait laver les pieds. Alors, Jésus va prendre un linge, il va prendre un seau d'eau, puis il va s'agenouiller devant chacun de ses disciples. Puis il va leur laver les pieds. Et après leur avoir lavé les pieds, il prit ses vêtements, qu'il lui reprit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Ça, c'est dans Jean 13, au verset 12 à 17. Pratiquement, est-ce qu'on va commencer à demander aux gens d'enlever leur bas, puis on va enlever la mousse entre leurs orteils? Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? On va commencer à chercher ce qui est bien pour l'autre avant de chercher ce qui est bien pour soi. Et ça, c'est la clé de tout mariage heureux. Et c'est la clé du témoignage chrétien. C'est que c'est le message, ce n'est pas d'abord un message en mots, c'est un message en attitude. Puis les gens, ils nous voient, nous autres les chrétiens, qu'on dit avoir la vérité. Hein? Parce qu'on a découvert la vérité de l'Écriture. Mais il y a une attitude qui vient avec ça aussi. Est-ce que c'est une connaissance qui enfle ou c'est une connaissance qui sert? Et Jésus dit, vous voulez être grand, pas de trouble. Vous voulez partir à servir. Celui qui va en servir le plus parmi vous autres, c'est lui qui va être le plus grand parmi vous. Tu peux-tu t'enorgueillir? Je vais servir plus de monde, Non, parce que ça demande de s'abaisser. Ça demande de placer les autres en hauteur. Dès que tu places les autres en hauteur, sais-tu quoi? On s'en fout de la récompense. Ou on s'en fout de la reconnaissance au bout. Parce que ce qui compte, c'est que l'autre soit mis en premier. Donc, le maître, Dieu, place les autres en valeur. À combien plus forte raison le chrétien, à Noël, devrait placer les autres en valeur? Pensez à ça lorsque vous voyez vos familles, quand vous êtes en couple, en famille. Puis, on dirait que Jésus a manqué sa shot. Tu regardes les disciples, tu sais. Dernier repas, ça fait 3 ans. Ils sont encore en train de se chicaner à savoir c'est qui est le plus hot par rapport au reste de la gang. Mais savez-vous qu'après que Jésus-Christ soit mort sur la croix puis ressuscité, les gars ont commencé à écrire leur histoire. Puis Matthieu, il écrit, Matthieu c'est un publicain, hein? Puis eux autres, les publicains, c'était des voleurs. C'était des gens qui te chargeaient de l'argent puis qui te faisaient de la fraude, tu sais. Mais le seul à dire que Matthieu est un publicain puis un voleur, c'est Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu. Pourquoi? Bien parce qu'il y a... C'est plus d'être le meilleur parmi eux qui compte, c'est d'avoir un constat réel de sa propre humanité. Fait que le seul qui écrit qui est un publicain, c'est lui. Puis quand il a rencontré Jésus, dans le fond, il a quitté son poste de péage, là, ou je ne sais pas quoi, là. Puis il est allé faire un gros banquet pour Jésus, puis des prostituées, puis plein de monde. Puis il a fait le gros party, tu sais. Mais Matthieu, il n'en parle pas du party qu'il a fait pour Jésus. C'est intéressant. Marc qui écrit, il raconte la vie des disciples, mais dictée par Pierre. Okay? Donc, Marc, les érudits pensent que Marc a été écrit par Marc, mais relaté par Pierre. Alors, c'est écrit, toutes les fautes inimaginables de Pierre sont écrites dans l'Évangile de Marc. Et spécialement son reniement, avec les moindres détails, le cri du coq, puis toutes les affaires, il raconte tel que ça s'est passé. Il n'essaie pas de faire se présenter meilleur. Il ne souligne pas non plus les bons coups, comme la marche sur les eaux ne se retrouve pas dans l'Évangile de Marc. Intéressant. Pierre écrit de lui-même, mais il pense en disant, regarde ce que j'ai fait pour Jésus, tu sais, j'ai marché sur les eaux, puis tout ça. Non, il laisse les autres évangélistes le raconter. Pourquoi? Parce qu'un des traits du disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il n'est plus le centre. Il n'a pas besoin d'être la star pour Jésus. Il n'a pas besoin d'être celui qui a fait du bien au nom de Jésus. T'sais. À la limite, il pourrait passer dans les annales de l'histoire. Il sait que son maître l'a vu. Assez que quand Jésus nous dit, « Hey, si tu fais une offrande, là, crème, dis-les pas à ta main droite, à gauche. » Fait que si ta main droite donne à l'offrande, okay, que ta main gauche ne le savent pas. T'sais. C'est mes factures, si vous voyez, puis mes cartes de crédit. Donc, quand tu fais une offrande, là, que ta main droite ne le dise pas à ta main gauche, ou quand vous priez, là, fermez la porte, puis que personne ne vous voie. Quand vous jeûnez, prenez pas, faites pas une face de violon pour que les gens disent, oh, il est en train de jeûner, ça doit être difficile, ah, il fait ça pour Dieu. Ah, oh, il aime-tu Dieu, lui, hein, tu sais? Si tu fais un don, essaie d'être anonyme le plus possible. Dis pas, hey, j'aurais tant à donner. J'aimerais ça que ça fasse ci, que ça fasse ça. Non, sais-tu quoi? Le plus possible anonyme. Pourquoi? Parce que le Père qui te voit va le reconnaître. Autrement dit, il y a quelque chose qui est proche du cœur de l'homme, c'est que quand il fait quelque chose, même pour Dieu, il veut s'attribuer le crédit de l'avoir fait. Merci Seigneur que je jeûne deux fois par semaine. Hein? Puis là, il dit ça devant les autres. Il va prier sur le coin des rues. Tu sais, puis Jésus va dire, ne faites pas comme les hypocrites qui vont sur le coin des rues puis font de longues prières pour l'apparence. Tu sais. Mais on est tellement dans un monde de tape à l'œil. On est tellement dans un monde qu'il faut qu'on soit performant qu'on a fait rentrer ça dans l'Église. Et là, c'est à nous de dire, sais-tu quoi? Même si je ne suis pas reconnu. Ouais, mais j'ai fait tout ça puis je n'ai pas été reconnu. Tu le faisais-tu pour être reconnu? Bien qu'il faut reconnaître et apprécier la générosité, la bonté quand c'est fait, est-ce que c'est pour ça qu'on le fait dans un premier lieu? Donc, l'incarnation nous parle de ça beaucoup. Jean, sac, un des fils du tonnerre qui voulait faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains, il va dire dans 1 Jean 3,16, « Comme Christ a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie pour les autres. » Hein? C'est comme Pierre qui pilait sur les pieds de tout le monde, puis Jacques qui voulait être un des premiers assis à côté de Jésus dans son royaume. Les deux ont dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est des gars qui ont appris dans leur vie, plus qu'ils ont vieilli, puis ont découvert que c'est la grâce de Dieu qu'on a besoin. Puis on l'a pas quand on performe, pas quand on se compare aux autres. On l'a quand on réalise, c'est-tu qu'on a besoin de cette grâce-là. Conclusion ce matin. Dieu vient sur terre comme un simple homme pour nous montrer que l'humilité précède la gloire. Ça prend une certaine humilité, même pour ceux qui doivent accepter un enfant roi. Vous avez besoin d'humilité en acceptant qu'un homme appelé Jésus, juif de Nazareth, soit aussi votre Messie, votre Sauveur. Ça demande de l'humilité d'accepter que Jésus soit notre roi. Mais avant la gloire vient l'humilité. Et ce que Jésus est en train de faire sur la terre présentement, en vos personnes, en chacun de nous qui sommes à l'école de Jésus-Christ, c'est faire des disciples qui s'abaissent pour faire connaître l'amour de Dieu. C'est des gens qui se deviennent un peu plus petits. Plus qu'on avance avec Jésus, plus on devient petit. Puis on réalise que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Et qu'est-ce qu'on est? Des voix qui crient dans le désert. Des gens qui portent un message. Dieu réserve la bénédiction. On découvre que plus qu'on essaie d'être quelqu'un dans le monde, plus qu'on essaie de faire notre place, plus que Dieu il nous laisse se débrouiller. Plus qu'on dit, hey, « Seigneur, j'ai besoin d'aide, j'y arriverai pas, j'ai un examen, Seigneur. » J'ai ce défi dans ma vie, je viens à toi, veux-tu me donner, s'il te plaît, ta grâce? Dieu dit qu'il donne sa grâce à ceux qui s'humilient. Puis il laisse se débrouiller ceux qui pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Il résiste aux orgueilleux, puis il donne sa grâce aux humbles. Les humbles vont reconnaître l'amour de Dieu, puis ils vont connaître Dieu. Dans ma conclusion, parce qu'on est à Noël aussi, les mages avaient fait environ 3000 km pour venir. Savez-vous sur quoi ils se reposaient? Pourquoi ils ont fait ce voyage-là puis ils ont amassé des années et des années de salaire, de l'argent? Puis, sur quoi ils se fiaient? Un écrit de Daniel, hein? Qu'est-ce qu'il disait cet écrit-là? Oui, c'était en Babylone que ça avait été écrit, que Daniel avait été amené en Babylone, hein, en déportation. Oui, ça c'est intéressant. C'est l'autre prophétie, ça, qui vient de Balaam à Babylone. Par contre, Daniel, il avait dit que après que Jérusalem serait reconstruite, il y aurait 70 périodes de 7 ans où ce que le Messie viendrait dans la dernière période environ. Fait que quand que Jérusalem a été reconstruite, Daniel avait, il y avait un temps et ça tombait dans ce temps-là environ. 450, 460 ans à peu près. Ça disait que le Messie viendrait 483 ans, il serait retranché. C'est-à-dire qu'il mourrait. Hein? 483 ans, mais il faut qu'il vive. Là. Fait qu'il y a quelque part, là, 450 à peu près, là, après la prophétie. Fait que, à Babylone, il y avait un gars qui s'appelait Daniel qui avait été amené en captivité des Juifs, avait été amené à Babylone. Il y avait cette période-là. Puis, il y a quelques centaines d'années, voire milliers d'années, il y avait un gars qui s'appelait Balaam qui avait dit, « Je vois, non de près, mais de loin, une étoile au-dessus de Juda. » Et ça dit que ça va être le roi de la terre, finalement. Fait que les Babyloniens, ils avaient deux affaires. Ils savaient que c'était pour être un roi, puis ils savaient quand il était pour venir. Fait que là, ils sont venus, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir, ils sont allés à Jérusalem, bien sûr, en Juda. Puis, ils ont dit, « C'est où ce qui doit naître, tu sais? » Puis finalement, ils ont dit, ben il y avait le prophète Michée. Fait qu'ils ont commencé à tourner les Écritures. C'est écrit que la Vierge enfantera à Bethléem. Donc, ils ont dit, ça va être à Bethléem. Fait que là, avec ça, ils sont allés à Bethléem. Mais ici, on a un roi, Hérode. La Bible dit que toute la ville fut en émoi quand ils ont entendu que les mages cherchaient le roi des Juifs. Parce que le roi des Juifs, c'était Hérode. Il avait la réputation d'être favorable aux Juifs parce qu'il leur avait refait construire le temple. Mais il avait aussi la réputation d'être un crinqué. Il avait tué sa femme et ses enfants pour être sûr de ne pas avoir de successeur sur son trône. Fait que quand les gens ont dit « Il est où le roi des Juifs? » Le surnom « Le roi des Juifs » était donné à Hérode. Il a capoté, là, je veux dire. Bien, il a manqué d'humilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Il est où le roi des Juifs afin que je puisse aussi aller l'adorer? » Il a fait à croire que c'était ça. Mais en fait, ça venait bousculer son monde. Puis Jésus, ça vient bousculer le monde parce que Jésus, contrairement au diable, le diable, c'est facile à le servir, on peut vivre comme le diable après. Par contre, suivre Jésus, accepter Jésus, c'est aussi de le suivre. C'est aussi de vouloir écouter ses enseignements, c'est de le laisser régner sur nos vies avec la Bible. T'sais. Ça parle d'Église, ça parle de que Jésus veut que je l'obéisse. T'sais. Fait que c'est sûr que ça demande de l'humilité parce que Jésus, il ne te laisse pas vivre n'importe comment, il veut que tu vives mieux. T'sais. Et donc, il veut être le Seigneur et le roi de ta vie, il veut être le Seigneur et le roi de ma vie. Puis aujourd'hui, il nous a demandé d'être humble comme lui ou de poursuivre l'humilité comme lui, il l'a modélisé. T'sais. Et donc, ça veut dire que ça demande une certaine humilité venir à lui. Parce que ça veut dire que j'abandonne la suprématie de ma vie pour dire, « Hey, tu sais quoi, aujourd'hui, je ne ferai plus juste ce que je veux. » Je vais apprendre à obéir à Jésus-Christ. Je vais apprendre à le suivre et à marcher dans ses traces à lui. Ça demande l'humilité, mais avant la gloire, il y a l'humilité. Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Puis c'est écrit, le Père l'a souverainement élevé. Avant l'élévation, il y a l'humilité. Le chrétien, c'est la même affaire. Il va avoir de l'air comme des fois les balayures du monde. Paul va dire, il n'y a pas beaucoup de puissants parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches parmi vous. Mais Dieu a pris les choses folles du monde. Puis là, il parlait aux chrétiens. Il a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Puis il a pris les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi? Parmi les forts, Dieu dit, je ne peux pas les utiliser. Ils se pensent trop bons. Mais les faibles, eux autres, ils disent, regarde Dieu, je ne peux rien faire. Tu sais. Mais veux-tu me donner ta faveur? Donc, Dieu va prendre un faible, un pauvre, une personne qui n'est rien pour confondre le sage, l'important, le puissant dans ce monde. Il va le confondre. Puis Paul va dire, il n'y en a pas beaucoup de grands parmi vous. L'humilité, c'est-tu quoi? C'est de faire comme l'image, dire, OK, ça ne tape pas à l'œil, là. C'est un petit bébé dans une maison. Il y avait 2 ans quand les mages sont arrivés. Ça ne frappe pas les regards, mais c'est possible que Dieu se fasse enfant comme ça. Les orgueilleux vont rejeter son offre et continuer à être fiers d'eux-mêmes et se fier en eux-mêmes. Hérode est un bon exemple de ça. Mais, je finis, et là, c'est vraiment ma dernière conclusion. Celui qui est venu comme un agneau, puis qui est venu pour servir les hommes, va venir comme un roi pour juger les hommes. Mais je crois que s'il est venu d'abord comme un enfant, c'est parce que c'est la seule manière qu'on voit qu'il nous aime. Parce que s'il serait venu déjà comme un roi, s'il serait venu comme un roi, on aurait passé à côté de cet aspect-là ici, qui est venu comme serviteur donner sa vie pour les autres. On va fermer les yeux ensemble. Aujourd'hui à Noël, ce qu'on fête, c'est pas le commencement de Jésus, c'est l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui existait avant et de toute éternité qui s'est fait homme. La leçon qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Dieu, s'il serait venu comme un roi, on n'aurait peut-être pas été convaincu qu'il nous aime, puisqu'il serait venu comme un juge. Mais il nous offre de venir comme un homme. Puis qu'est-ce qu'il nous offre de faire à la croix? Il vient prendre ton péché et mon péché qui m'amène devant le juge. Il prend sur lui, se fait frapper, se fait humilier à ta place pour que tu n'ailles pas en jugement devant lui. Il vient d'abord comme un homme, puis ensuite comme un juge. La bonne nouvelle aujourd'hui qu'on a de lui, c'est qu'il s'est humilié pour nous. Et que nous, on doit s'humilier en acceptant qu'il devienne notre roi et notre maître. Et ça, c'est l'invitation qui est faite à chacun d'entre nous. Si vous écoutez cet enregistrement, vous entendez ce message, vous n'avez jamais fait la transaction avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme transaction à faire? Bien, il y a une transaction, c'est d'accepter qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est l'inviter comme notre sauveur personnel. Alors, si vous n'avez jamais fait cette prière-là, répétez-la après nous. On va la faire en geste de courtoisie. Ce n'est pas une prière qu'on doit faire tout le temps. C'est une prière qu'on peut faire une fois. Ce qui est important, c'est de croire qu'est-ce qu'on dit. Il faut se reconnaître pécheur, réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, que Jésus est ce sauveur-là et qu'il a fait tout pour qu'on puisse être sauvé. Répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai entendu que tu es Dieu, fait homme, et que tu as payé la dette de mes péchés pour que je puisse avoir la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si une personne qui a prié cette prière-là pour la première fois, je te prie, Seigneur, que tu te révèles à elle, que tu lui montres c'est quoi la vie éternelle, que c'est toi. Je te prie, Seigneur, que s'il y a quelqu'un qui a l'humilité de faire cette prière-là, tu puisses régner sur sa vie et lui montrer que tu donnes ta grâce à ceux qui s'humilient. Maintenant, pour chacun d'entre nous, alors que nous approchons, nous sommes en plein milieu de ce temps des fêtes-là, que nous réalisions que si Dieu veut montrer son amour, il le fait en se faisant petit. Que nous aussi, on peut aller démontrer l'amour de Dieu en se faisant petit, et non pas en se rabaissant, mais en se faisant serviteur des autres. En mettant les autres en valeur, en n'étant pas toujours le centre de l'attention ou de la discussion, en plaçant les autres en valeur. C'est un peu comme le blé fait que notre fruit porte par le fait qu'on se rapproche du sol, par le fait qu'on est courbé. Que ce n'est pas juste, comme en Asie, un respect des positions, mais que ce soit une vraie attitude de cœur, Seigneur. Que les gens sentent vraiment que, à travers nos vies, il y a quelque chose de particulier. Un amour sincère, un intérêt sincère. Fais-nous grandir dans cette humilité-là, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous utiliser et nous envoyer ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Amen. Yes.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio-vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.